Alors, pour les personnes qui prennent des notes, qui c'est important, des fois, on arrive à retenir quelques mots, quelques messages quand on l'écoute. Mais cette semaine, j'ai eu une conversation avec ma fille, avec Isabella, et elle m'a dit, papa, ça fait quelques semaines que j'ai commencé à lire la Bible, à faire des études, mais que j'ai commencé à écrire. Elle aime bien les faire. Alors, moi, je n'aime pas trop, mais il y a des personnes qui n'aiment pas. Mais bon, pour les personnes qui prennent un peu de notes, le nom de cette prédication, c'est « Quel est l'état de ton cœur ?» Et c'est une question que je m'efface de temps en temps, mais qu'il faut tous, chacun de nous, et comme chrétiens, demander devant le Seigneur, « Seigneur, c'est quel l'état de mon cœur ?» Et je ne sais pas, je pense que les enfants, ils vont rester aujourd'hui, non? Ou ils vont descendre? Non? Bon. Parce que je note que les malades sont nés aussi. Alors, je pense que c'est le groupe des gens qui vont prendre. Vous descendez avec les enfants? Ok. Et Joy et Daniela, ils vont descendre. Alors, regarde, l'esprit de service. Les gens de l'église. Ah, mais c'est bien. Merci, Seigneur. Voilà. Merci Daniela, merci Joy. Alors, c'est quel état de mon corps? Et moi, ce matin, quand je me réveillais, j'ai lu une petite histoire parce que j'aime bien lire. Je ne suis pas très bon pour écrire, mais moi, j'aime bien la lecture. Alors, ce matin, quand je me réveillais, j'ai lu une petite histoire qui parle d'un jeune, jeune homme. C'est ça? Ah, merci. D'un jeune homme qui... Il arrivait dans son église, c'était une grande église de 200, 300 personnes. Et après, bah, c'est une histoire pas vraie, bien sûr, que je vais raconter. Et après, il arrivait devant la congrégation, il était très orgueilleux, il était dans la vanité tout le temps, parce qu'il voyait son propre cœur et il pensait que c'était le plus beau corps qu'il pouvait avoir, exister ou avoir dans le monde entier. Alors, son corps, il était précieux, il était beau, il était, on dit, nickel, impeccable, aucune blessure. Et après, il a dit devant la congrégation, « Regardez l'état de mon corps. Il est bon, n'est-ce pas ?» Et après, toute la congrégation, il a commencé à regarder, tout le monde était étonné pour l'état de ce corps. Et après, tout le monde a dit, « Oui, c'est le plus beau que jamais on avait vu. » Et après, il y avait un homme qui était assis derrière et qui commence à regarder un vieux homme qui était dans l'église, très âgé, avec un corps déchiré, avec un corps, on va dire, qui était réparé plusieurs fois, un corps imparfait, et avec des morceaux différents, un corps complètement, on va dire, moche, on va dire. Non? Moche, non? Ça veut dire. Alors, et tout le monde a commencé à regarder. Il a dit, mais t'es fou. Tu vois l'état de corps de cet jeune homme. Mais après, cet homme qui l'a vu, voilà, il n'y a pas de question. C'est horrible, c'est très moche. Mais après, l'homme, il a dit, le plus important dans son corps, c'est pas essayer d'avoir un corps parfait, mais c'est comme on a chanté tout à l'heure. Et ça, c'est de donner notre corps vers les autres. Et comme j'ai partagé la dernière fois. Alors, si le corps de cet homme vu, il était déchiré, il avait souffré beaucoup dans la vie, c'était pas parce qu'il a été investi avec les autres. Et c'est la même chose que Jésus-Christ a fait pour nous. Il est venu, mais il a donné pas seulement son corps. Non, on l'a chanté tout à l'heure. Il a tout donné. Il a donné sa vie. Il n'a pas donné seulement son corps, son cerveau, il a tout donné pour nous. Pour qu'on soit là aujourd'hui avec la certitude qu'on a la vie éternelle. Et qu'on peut avoir l'espérance, l'espoir au milieu de toutes les situations difficiles qu'on voit et que le monde traverse maintenant. Alors à la fin de cette histoire, j'aimais, parce que le jeune homme, il avait compris que son corps, il avait pensé qu'il était parfait, mais avoir un corps parfait, ce n'est pas le garder pour soi-même, Le plus important, c'est donner son corps à les autres. Et c'est pour ça qu'il était blessé. Parce que des fois, on essaye de donner le mieux à les autres. On essaye de servir les autres, comme j'ai parlé la semaine dernière. Mais des fois, on va nous trouver dans la souffrance, dans la douleur, dans la déception. On va souffrir des échecs. Mais ça ne peut pas empêcher que le Seigneur il nous a donné quelque chose d'important, que c'est notre corps. Alors maintenant, on va passer à la parole de Dieu. Qu'est-ce que dit la parole par rapport à notre corps? Alors, moi, j'aimerais bien, on va lire trois versets avant de rentrer dans la prédication. Qu'est-ce que dit la parole par rapport à notre corps? Premier verset, Proverbe 4, 20, Proverbe 4, 20 jusqu'à 23. Proverbe 4, 20. Alors, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. 22. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Et c'est la santé pour tous les corps. Moi, j'aimerais bien lire une autre version, que c'est la BDS, la version de ce mort. Il dit, alors, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes propos, ne les perds pas de vue. Garde-les au fond de ton corps, car ils apportent la vie à ceux qui les accueillent. Et ils assurent la santé du corps. Et verset 23. Par-dessus, tout veille soigneusement sur ton corps, car il est la source de tout ce qui fait la vie. Tu sais, la source de la vie, le Seigneur, il a déposé dans le corps de chacun de nous. Alors s'il y a quelque chose de spécial, quelque chose de précieux, quelque chose cher ou que tu aimes beaucoup, s'il y a un souvenir que tu gardes dans ta maison, ou si c'est quelques bijoux précieux, ça, c'est rien à voir par rapport à ton corps. Parce que c'est ça qui dit la parole. Il faut garder notre corps. Parce que c'est la source de la vie. Alors, le Seigneur, il nous demande de garder notre corps. Mais comme il est, dans quel état il est ton corps, il est mon corps? C'est quoi la vérité d'un corps humain? On va le lire dans le deuxième verset. Et c'est Jérémie 17, versets 9 et 10. Et regarde qu'est-ce que dit la parole par rapport à notre corps. Le corps est tortue. Il est mauvais. Notre corps, il est mauvais. Le corps, il est tortue plus que toute autre chose. Et il est incurable. Qui pourrait le connaître? Je ne connais pas mon corps. J'escroute les tréfonds de l'être pour donner à chacun ce que lui auront valu sa conduite. Il s'est fait de ses agissements. Alors, on va agir par rapport à les choses que j'ai dans mon corps et que j'ai gardées dans mon corps. Et c'est pour ça, Église, que pour chaque chrétien, c'est important. Et on peut lire dans les paroles, et le roi David, il venait devant le Seigneur, il s'est prosterné, il disait toujours, Seigneur, regardez comme il est mon corps. Si je marche sur un chemin correct, où je suis en train de prendre des routes à droite ou à gauche. Parce que c'est facile de se laisser guider par notre corps. Et quand je regarde des fois des séries, des fois je regarde quelques séries avec mes filles, et on écoute parler toujours la nouvelle génération, tout le monde dit, il faut se laisser guider. Pourquoi ? Par son corps. Il faut que tu te laisses guider par ton corps. Et je parle à les enfants qui sont là ce matin. Je parle à tous les gens qui sont là ce matin. La pire chose que tu peux faire, c'est te laisser guider pour ton corps. Parce qu'il est quoi ? Il est mauvais, il est tordu, il n'est pas bien. Alors pourquoi je vais me laisser guider pour mon corps si normalement il va toujours me ramener à faire des bêtises et à tomber dans les échecs ? Et qu'est-ce qui dit la parole ? C'est mieux essayer de garder notre corps. Alors comment je peux garder mon corps ? Qu'est-ce que je peux faire pour garder mon corps ? On va passer à la troisième verset, et ça c'est fort. Mais je voudrais vous basculer ce matin. Je voudrais rentrer et qu'on réfléchisse par rapport à cette parole que j'ai ramenée et que le Seigneur m'a montrée ce matin. Alors, on va lire Matthieu 15. Et c'est Jésus qui parle. Matthieu 15. Ok, à partir du verset 16. Alors, 16. Alors, c'est Jésus qui parle. Il y avait les religieux de l'époque qui sont venus devant Jésus. Ils ont commencé à reprocher à Jésus parce qu'ils ont dit, Jésus, il faut faire attention. Hein. Il y a tes disciples qui ne se sont pas lavé les mains pour prendre les aliments et pour manger. Alors c'était des lois dans l'Ancien Testament, que c'était des lois pour la vie quotidienne. Je pense qu'à l'époque, c'était pour éviter une propagation d'une maladie ou des choses comme ça. C'est normal, on les fait, maintenant on les garde. Vous vous rappelez, pendant le confinement, pendant le Covid, il faut se laver les mains. Alors, ils sont venus devant de Jésus, et comme ils trouvaient toujours quelques pièges, faire de mal à Jésus. Ils sont venus, ils ont commencé à dire, bon alors, c'est pas bien. Alors Jésus, il commence à répondre. Il dit, à partir du verset 16, et quoi, répondit Jésus, vous ne comprenez toujours pas, vous aussi. Il parle à les disciples, qu'ils ont fait des questions par rapport à ça. Ne cessiez-vous pas que tout ce qui entre par la bouche va dans le ventre, puis est évacué par voie naturelle. Alors, ils ont été préoccupés pour les choses qu'ils mangeaient, que s'ils faisaient du mal au corps complet. Verset 18, « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est cela qui rend l'homme impur. Car c'est du cœur que provient quoi ? Les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité, les vols, les faux témoignages, les blasphèmes, voilà ce qui rend l'homme impur. Mais manger sans s'être lavé les mains ne rend pas l'homme impur. Amen. Et c'était une parole très forte que Jésus il a partagée. Parce que quand on est très religieux, on pense toujours, comme cet jeune homme que j'évoquais quand j'ai commencé, à garder l'extérieur, avoir un cœur beau, parce qu'on pense toujours à la beauté. Et Jésus l'a reproché plusieurs fois, la religieuse, quand il a dit, vous êtes comme un sépulcre, c'est dit, hein? Sépulcre blanchi. Ah, merci, merci beaucoup. Un sépulcre, c'est pareil en espagnol, on dit sépulcre blanqueado, blanchi, c'est pareil, hein? Il y a des mots qui sont pareils. Alors, c'était un sépulcre blanchi. Parce qu'à l'extérieur, tu vois qu'ils sont très beaux. Et des fois, notre vie, c'est pareil. Des fois, on essaye de sortir de la maison. Et nous habiller bien pour aller au collège, non, pour aller au lycée. Et on dit, bon, maintenant, il faut que je mette les bons vêtements. Je vais retrouver mes amis, je vais retrouver mes collègues. Et des fois, on est très bien à l'extérieur. Mais c'est quel état de ton corps? Je te demande ce matin, enfant. Tu vas bien? tu es content, tu as la joie du Seigneur. Et je ne vais pas rentrer dans, pour parler de les fruits du Saint-Esprit. On va parler d'un autre fruit maintenant. Mais c'est quel vraiment l'état de mon corps? Est-ce que je suis comme ça, de montrer quelque chose de beau à l'extérieur? Et après à l'intérieur, je suis dans la tristesse, dans la dépression, dans les difficultés. Alors ce n'est pas grave si on traverse des moments difficiles. Le souci, c'est quand j'essaie toujours de montrer devant les autres une image que j'ai. Que je ne suis pas, on va dire. Que ce n'est pas vraiment la vérité. Et c'est pour ça qu'il faut venir devant le Seigneur et nous voir, comme dit la parole, comme dans un miroir, pour regarder c'est quel l'état de mon corps. Parce que c'est ça la source, comme on a lu tout à l'heure, de ta vie. Amen. Alors, Jésus, il a dit, ce n'est pas les choses qui vont rentrer, que tu manges, qui vont être, faire l'homme impur. C'est toutes les choses qui sortent de notre vie. Et toutes les choses qui vont sortir, si on n'est pas un bon corps, on va toujours sortir les pires de nous. Et chacun de nous a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses. A des dons et des talents, mais on a des défauts aussi et des choses qu'on ne sait pas faire ou qu'on est dans la faiblesse des fois. Jésus, il a dit, et moi j'aimerais bien réfléchir ce matin à ça. Qu'est-ce qui fait que mon corps s'endurcit? Jésus, il dit dans les versets... On va passer à Matthieu 13, verset 1. Et on va voir la parabole du semeur, parce que ça parle beaucoup de notre corps. Ça parle d'un terrain qui doit être prêt pour recevoir, et comme on dit, les grains, non c'est ça? Pour recevoir les grains. Alors, ça dépend de l'état de notre corps. On va recevoir les grains, on va porter des fruits, on ne portera pas des fruits. Alors, je voudrais rentrer dans la parabole de ce mort. Et c'est Jésus qui commence à parler dans les versets 3. Il prit la parole, il leur exposa bien des choses sous forme de parabole. Pourquoi Jésus faisait des paraboles? Et moi je me demande toujours ça. C'est parce qu'il faut connaître d'une manière simple l'évangile et le royaume de Dieu. Alors comme l'évangile et le royaume de Dieu, c'est des choses très spirituelles que des fois on ne connaît pas, Jésus il a essayé de baisser, on va dire, ce niveau intellectuel pour nous apprendre comme on le fait pour nos enfants. Moi, j'aime bien toutes les écoles de dimanche, quand les enfants à 12 ans, 3 ans ou 4 ans, ils commencent déjà à lire les petites histoires. Pas de la même manière qu'on les trouve dans la parole, mais avec simplicité. Plutôt pour trouver les messages qu'il y a à l'intérieur. Alors Jésus, toujours, il s'adressait à tout le monde par rapport à des paraboles pour essayer de donner un message simple que tout le monde peut comprendre. Il commença à expliquer cette parabole. Alors il y avait un semeur qui sortit pour semer. Alors qu'il répondait, sa semence de grains tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux et ne retrouvant qu'une mince couche de terre. Ils levèrent rapidement parce que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil fut monté haut dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés et comme ils n'avaient pas vraiment pris racine, ils séchèrent. D'autres graines tombèrent parmi les ronces et celles-ci grandiront et étoufferont les jeunes pousses. D'autres graines enfin tombèrent sur la bonne terre. Ils donneront du fruit avec
un rendement de 160 ou 30 par an. Celui qui a des oreilles qui l'entendent.
Personne ne comprenait cette parabole quand il a parlé. Et tu peux lire dans Matthieu, et cette histoire, il est dans trois livres de la parole. Je pense que c'était Luc, c'était Matthieu et c'était Marc qui ont évoqué la même histoire. Et tu vois comme même les plus proches, ils n'ont pas compris qu'est-ce que Jésus il disait par rapport à cette parabole. Et on peut le lire dans les versets 13. Le Seigneur, il dit, vous avez reçu le privilège de connaître, à partir de verset 11, pardon, vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume des cieux, mais eux ne l'ont pas reçu, car à celui qui a, on donnera encore jusqu'à ce qu'il soit dans l'abondance, mais à celui qui n'y a pas, on ôtera même ce qu'il y a. Verset 13, voici pourquoi je me sors des paraboles pour leur parler. C'est que bien qu'ils regardent, ils ne voient pas. Il vient qu'ils s'écoutent, ils n'entendent pas, ils ne comprennent pas. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Esaïe. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau voir de vos propres yeux, vous ne saisirez pas. Car ce peuple est devenu, écoute cette parole, insensible. Il y avait les cœurs durs. C'était un peuple insensible. Et Jésus, il a dit, ils ont fait la sourde oreille et ils se sont bouchés les yeux de peur qu'ils voient de leurs yeux et qu'ils entendent de leurs oreilles, de peur qu'ils comprennent qu'ils reviennent à moi et que je les guérisse. Le Seigneur, il voudrait nous guérir, mais il faut que on arrive à faire deux choses que je viens de dire dans la parole. Il faut écouter et il faut boire. Il faut regarder bien. Alors, quand notre corps, il est très endurci, il est dur, quand on est dans des situations difficiles, même qu'on entend la parole de Dieu, ça ne va pas produire fruit parce qu'on est endurci. On va le voir tout à l'heure quand on va rentrer dans les détails. Mais le Seigneur, il a commencé à dire, regardez la prophétie qu'a donnée Esaïe. C'est un peuple qui même qui écoute la parole, il ne voudrait pas l'écouter. Et même que les jeunes, ils voient à Dieu agir et faire des choses, c'est des personnes qu'ils ne voudraient pas les voir. Alors c'était le cas de tous les légalistes de l'époque, qui ils sont écoutés à Jésus, partagés plusieurs fois, plusieurs paroles. Et jamais ils sont entendus. Mais ils sont vus aussi à Jésus agir. Il faire des miracles. Il faire des choses que personne jamais il avait fait. Mais ils ne sont pas voulu vraiment voir les choses. Et c'était quoi les soucis? Bien sûr que c'était la religiosité. Mais le problème, c'est que les corps, ils étaient déjà durs. Que c'était un corps de pierre. Non, de pierre. C'était un corps de pierre. Alors, des fois, ça nous arrive comme chrétiens. Je peux dire, non, ce n'est pas mon cas. J'ai accepté à Jésus, ça fait 20 ans. Je connais déjà la parole. J'ai reçu la parole. J'ai prié, pas comme avant, mais peut-être de temps en temps. Mais je me mets devant le Seigneur à prier. Mais on ne se rend pas compte, comme chrétiens, que des fois, notre corps, il est dur comme une pierre. Et ça devient, ça devient de plus en plus à travers les difficultés. Et c'est ça qu'il faut regarder, qu'il faut agir, Église. Parce qu'au milieu, et on va le voir tout à l'heure, de toutes les choses qui traversent le monde entier, de toutes les difficultés, notre corps, il commence à s'éloigner de plus en plus de Dieu. Jésus, il commence à expliquer cette parabole. Et moi, je vais évoquer les quatre terrains, ou les quatre endroits, qui a tombé cette graine. Parce qu'on ne peut pas oublier que cette graine, c'est la parole. Verset 10. Huit. Vous, donc, écoutez ce que signifie la parole du semeur.
Chaque fois que quelqu'un entend les messages qui concernent le royaume, il ne les comprend pas, le diable vient arracher ce qui a été semé dans son corps. Tel est celui qui a reçu la semence au bord du chemin.
Alors, il y avait un homme qui est parti à l'époque, il n'était pas avec des machines, c'était à la main. Il s'est rapproché pour commencer à esparcer les grains. Et la parole, il dit qu'il y a quelques grains qui sont tombés au long du chemin. Et au long du chemin, la terre, il y a une particularité. Elle est dure parce que tout le monde traverse. Et je ne connais pas trop de jardinage, c'est pas vraiment mon truc. Mais je pense que dans des terrains qui sont comme ça, jamais les grains qui vont tomber, jamais ils vont rentrer dedans. Il faut préparer d'abord la terre pour s'aimer, n'est-ce pas? Alors il y a un grain qui l'a tombé au long du chemin. Il y a une autre version que j'ai lue hier et qui dit que c'est... Et c'est parce que c'est des terres, comme je viens de dire, que des terrains qui sont très durs et que le corps il est endurci. Alors c'est ça, quand on voit les personnes qui sont dehors, qu'on voit qu'ils sont en souffrance, qu'on voudrait les partager la parole, et c'est les personnes que, quand tu vas les retrouver pour partager la bonne parole et la bonne nouvelle, ils vont toujours te fermer la porte. Ils vont dire, je ne voudrais pas écouter ce message. Et il y a pas mal de personnes qui sont comme ça, parce qu'ils ne sont pas prêts pour écouter l'évangile. Ils ne sont pas prêts vraiment pour s'arrepentir et pour marcher avec le Seigneur. Alors moi, je dis souvent à ma femme, quand on a l'opportunité de partager de Christ avec des personnes, je dis, il faut demander au Seigneur si cette terre, il est déjà un petit peu préparé ou pas. Parce que mon don, ce n'est pas l'évangélisation, mais moi, je l'ai fait quand même. Quand je trouve des personnes que je me sens à l'aise, que je peux partager, mais toujours il faut demander à Dieu, Seigneur, est-ce que cette personne, il est préparée ou pas? Je me rappelle, c'était François Gott qui nous a parlé, que Jésus, il a dit à les disciples, tu vas passer dans des maisons et tu vas voir si les personnes, c'est des hommes de paix ou pas. Alors pour moi, une personne de paix, c'est les personnes que le Seigneur, il a commencé déjà à préparer son terrain. Pour qu'un jour que tu vas pousser, que tu vas mettre les grains, il va donner quelques fruits. Alors, c'est important qu'on le sache. Parce que des fois, on commence à partager la parole partout, et après on va voir que jamais il va à être productif. Parce que des fois, on le fait dans des terrains qui ne sont pas préparés pour recevoir un grain. Alors, je pense que ce n'est pas le cas de toutes les personnes qui en est là. Je pense qu'un jour, quelqu'un nous a parlé de Christ, on a reçu avec la joie les bonnes nouvelles, mais je pense qu'on n'est pas, toutes les personnes qui sont là, j'espère, dans la première partie de personnes qui a tombé les grains. Parce que c'est les personnes qui disent, je ne voudrais pas écouter la parole. Alors, l'ennemi, il vient, il prend cette parole, c'est ça qu'on vient de lire, et ils partent avec elle. Alors jamais il va produire des fruits. On parle de 25% de possibilités. Hein? Et moi, je suis un peu mathématique. Moi, j'aime bien les numéros. Et quand on voit ça, on voit que les 25% de la parole qui peut être partagée, jamais va produire des fruits. Pourquoi? Parce que le corps, il est très, très dur. Alors si on voudrait faire une prière pour les personnes qu'on sait qu'ils sont en difficulté, mais qu'ils ne voudraient pas, c'est parce que la meilleure prière, c'est de dire, Seigneur, je te prie de commencer à travailler dans le corps de cette personne. Je pense que c'est la meilleure manière. Et des fois, c'est uniquement ça qu'on peut faire pour une personne qui est complètement avec son corps dur. Douzième terrain, c'est le terrain, c'est un endroit... Et comme on dit, pierreux. Oui, pierreux. Qu'il y a des pierres. Pierreux. 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 Verset 20. Puis il y a celui qui reçoit
la semence sur les sols rocailleux. Cette version, il parle d'un sol rocailleux. Quand il entend la parole, il accepte aussitôt avec joie. Mais il ne la laisse pas prendre racine en lui, car il est inconstant, que survient des difficultés ou la persécution à cause de la parole, les voilà qui abandonnent tout.
Ça, c'est le deuxième groupe qui parle de Jésus. Les premières, ils ne sont pas acceptés la parole. Ils sont refusés. Et l'ennemi, il a pris la parole, il est parti. Il y a un deuxième groupe, il y a un deuxième terrain, il y a un deuxième, on va dire, on va pas classifier les corps, mais c'est un corps qu'il est peut-être déjà un peu préparé pour recevoir, voilà, mais qu'il n'était pas vraiment préparé. Parce qu'on reçoit la parole avec joie. Et on dit, Seigneur, merci, parce que tu m'as fait grâce. Je suis dans telle ou quelle situation. Et après, j'ai vu que tu agis. Mais normalement, ça, c'est des courts durations. Ça veut dire, au moment qu'arrive la tribulation, les difficultés, les persécutions, c'est les gens qui vont abandonner facilement. Alors, j'ai pu partager dans ma vie personnelle que j'ai vécu des moments très difficiles par rapport à ça. Je suis né dans une famille catholique. J'ai grandi dans une famille très dysfonctionnelle avec un père qui, jusqu'à aujourd'hui, il se bat avec l'alcoolisme. Et j'ai grandi avec ma mère qui était toujours victime d'un père alcoolique. Et j'ai grandi dans des situations difficiles avec la tradition d'écouter toujours parler de Jésus. Mais moi, j'étais catholique jusqu'à 21, 22 ans. Et après, il y a un moment que j'écoutais la parole, que j'ai commencé à lire la Bible. C'est pour ça que je suis très attaché à la parole, parce que je n'ai pas visité une église, c'est seulement quelqu'un qui m'a donné la Bible. Et j'ai commencé à regarder la Bible. On a commencé, parce que c'était mon beau-père qui m'a donné la Bible. Quand Paula et moi, on a quitté la Colombie, et après il m'a dit, regarde, c'est un cadeau pour toi. Et dans les moments difficiles, j'ai commencé à lire la parole. Alors, j'ai reçu la parole avec joie. Mais après, j'étais confronté devant toute ma famille, qu'ils ne sont pas chrétiens, évangéliques, protestants comme moi. Et jusqu'à aujourd'hui, j'espère qu'un jour, je vais voir le Seigneur agir dans la vie de ma famille. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a ma maison, comme j'ai dit la semaine dernière, qu'on va suivre le Seigneur et on va servir le Seigneur. Mais pour l'instant, je n'ai pas vu les changements dans la vie de mon père. Et ça fait 20 ans, 20 quelques ans que je suis chrétien. Et un jour, le Seigneur il m'a dit, c'est pas toi qui vas les changer, c'est pas toi qui vas faire les travaux. Et maintenant, Dieu est levant parce qu'il me permet, de, même dans des situations difficiles, chez mes parents, de le partager. Et il reçoit la parole de Dieu. Et j'ai prié tous les jours pour mes parents. Et j'ai prié tous les jours pour mon frère qui habite dans ce quartier, à même pas 300 mètres d'ici avec sa famille. Mais mon frère, il ne connaît pas le Seigneur vraiment. Parce que connaître à Jésus, c'est pas seulement faire une prière et dire, ah Seigneur, je suis un pécheur, pardonnez-moi, et je vais marcher avec toi. Non, c'est rentrer dans les groupes que je vais parler tout à l'heure, dans les quatrièmes groupes, parce que c'est les personnes qui produisent des fruits. C'est les personnes qui vont travailler dans sa propre vie, la repentance, pour se remettre devant le Seigneur et pour dire, Seigneur, pardonnez-moi parce que j'ai encore mauvais. Et moi, les premières. Alors, quand la persécution arrive, quand tu vois ta famille qui vient vers toi, parce que tu es différent à les autres. Et c'est quoi la différence? C'est qu'on a décidé de suivre à Jésus. Et pour moi, c'était compliqué. Je me rappelle que j'étais, l'année 2016, que j'étais ici, j'habitais dans les 77, et après j'ai reçu un appel pour suivre à Jésus, aller servir comme pasteur à temps complet. Et après, j'ai pris le téléphone pour appeler à mon frère, parce que j'ai travaillé avec lui. Et pour lui dire, écoute, je vais laisser les travaux, je vais partir parce que j'ai une mission à faire. Et après, il m'a dit, t'es fou, qu'est-ce que tu vas faire? Je lui ai dit, je vais suivre l'appel que le Seigneur il m'a donné. Alors, ce n'est pas facile confronter la famille. Ce n'est pas facile confronter la persécution. Ce n'est pas facile être uniquement, être tout seul dans l'école, dans les lycées, et être différent. Alors, on n'est pas différent parce qu'on est mieux que les autres. On est différent parce qu'on a l'espoir, on a les bonnes nouvelles qu'on a reçues et on voudrait donner des fruits. Et c'est ça qui fait la différence. Alors un chrétien, c'est une personne qui va servir les autres, qui va aimer les autres, qui va donner son corps, comme j'ai raconté dans la petite histoire. Alors la vie va être compliquée, parce que je vais te dire une vérité. Moi, j'aime bien partager l'évangile, mais je ne peux pas dire des mensonges ici. Et la vie chrétienne, c'est difficile comme la vie sans Christ. Peut-être que c'est un petit peu plus difficile, parce qu'on a un ennemi qui est puissant, mais qui n'est pas plus puissant ni plus grand que notre Dieu, que c'est Jésus. Qui dit amen à cette parole. Alors c'est ça, on a le Dieu qui est plus puissant, mais on a un ennemi qui va s'aider toujours, comme on a lieu d'enlever la parole. Alors si dans ta vie, tu trouves qu'il y a des persécutions, qu'il y a des difficultés, qu'il y a des adversités, alors je vais te dire une vérité ce matin, tu es dans la bonne voie et tu es dans le bon chemin. Parce que seulement l'ennemi, il ne va pas embêter les personnes qui les suivent et qui veulent dire moins avec lui. Parce que comme chrétien, on va être toujours confronté à des situations difficiles. Toujours on va être confronté à prendre des décisions, à dire, Seigneur, qu'est-ce que je ferai dans cette situation? Alors c'est au milieu des difficultés que le Seigneur il va te faire grandir. C'est au milieu des difficultés que tu vas trouver vraiment l'appel et qu'est-ce que le Seigneur il est pour toi. Alors ce n'est pas facile. Moi, j'étais confronté toujours à ma famille. Et moi, j'aime bien ma famille, mais je suis le bizarre de la famille. Je suis le différent de la famille parce que j'ai pris la décision de suivre à Jésus. Alors, même que ma famille, pour dire, oui, on est chrétien, mais c'est plutôt une tradition parce que jamais il y a, on va dire, une expérience avec Jésus-Christ. Alors, je ne juge pas ma famille, je prie pour ma famille, qu'un jour, le Seigneur, il va travailler dans les corps de chacun pour recevoir les grains. Amen. Je voudrais lire un verset, ici, Jean 16, 33. Jean 16, 33. Et il fallait que je vois, disent aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. C'est Jésus qui parle. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais courage, écoutez cette parole, c'est pour toi ce matin. Courage, moi j'ai vaincu le monde. Et c'est Jésus qui l'a vaincu. On n'est pas vainqueur. On est vainqueur parce qu'on croit en lui. Et on sait qu'il a gagné déjà. Et qu'il nous a remporté la victoire. Mais pour l'instant, on se bat, il faut se battre de la bonne manière. Pas pour se bagarrer avec la famille parce que je voudrais imposer le christianisme. Non, et moi je l'ai fait des fois. Mais ce n'est pas comme ça que ça va marcher. Il faut prier, et il faut toujours demander au Seigneur de travailler dans la vie de cette personne. Troisième terre, on va retourner, et je suis en train de finir, et verset 22, Matthieu 13. Matthieu 13, verset 22. Et après, il y a le troisième groupe. Une autre enfant a reçu la semence sur la bonne terre. C'est celui qui a écouté la parole et qui la comprend. Alors, c'est des personnes qui écoutent la parole, qui réfléchissent et qui comprennent la parole. Alors, il porte... Ah non, je m'ai trompé, pardon, je pense que je suis... Non, c'était le 22. Une autre encore a reçu la semence parmi les ronces. C'est celui qui écoute la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits, parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde et par l'attrait trompeur de richesses. Alors, il y a le deuxième groupe qu'il va faire marche arrière. Quand on voit la persécution et on voit la difficulté parce que la vie chrétienne est difficile, mais après il y a le troisième groupe qui va un petit peu plus loin, mais qui une fois qui commence à voir tous les plaisirs qu'il y a dans le monde entier et qui commence à voir le plaisir que produit l'argent et la richesse, un jour ils vont prendre une décision, ils ne vont pas continuer à servir le Seigneur. Je n'ai pas évoqué les versets la semaine dernière. Mais la parole dit, on ne peut pas servir du Seigneur. Et la semaine dernière, j'ai parlé du service. On va servir à qui? On va servir à Dieu, on va servir les richesses. Parce que les versets, je ne vais pas les lire, mais tout le monde les connaît. C'est Matthieu 6, 24. On ne peut pas servir de Seigneur. Parce que sinon, on va aimer un et on ne va pas aimer l'autre, ou à l'inverse. Mais on ne peut pas servir à Dieu et servir la richesse. Ça veut dire qu'il faut être des chrétiens pauvres. Il faut être des chrétiens qui n'aura pas de l'argent pour manger ou qu'on ne peut pas acheter une maison. Non, ça c'est faux. Ça c'est un pensée faux. Mais le problème, c'est dans ma vie et dans mon corps, c'est qui prend la première place, parce que c'est une question de priorité. Et la semaine dernière, je parlais du service et on ne peut pas servir à Dieu parce que des fois, on a l'idolâtrie dans notre vie. Et l'idolâtrie, c'est l'argent, c'est toutes les choses qui sont matérielles. Parce qu'on voit ici, on voit des belles voitures, on regarde les voitures et chaque deux mois ou trois mois, il y a une nouvelle version de chaque voiture. C'est incroyable comme toutes les choses qui peuvent rentrer. Je ne vais pas rentrer dans les détails du visuel, des yeux, mais toutes les choses, ils rentrent par là. Alors on voit, et c'est tous les désirs qu'il y a dans le monde entier. On écoute, j'ai mon collègue de classe qui est parti, qui est en Chine, qui est au Japon, qui est parti là-bas. Je voudrais faire pareil. C'est pas méchant voyager. C'est pas méchant acheter une maison. C'est pas mal avoir de l'argent et pouvoir changer de voiture chaque 12 ans ou chaque 3 ans. Je trouve que ça, c'est génial. Le problème, c'est comme je te demande quand j'ai commencé, comme est l'état de ton corps par rapport à l'argent. Et ça, c'est la question que je voudrais te poser maintenant. C'est le troisième groupe. Attention. Beaucoup de personnes qui ont reçu la parole, ils se sont tournés, ils ont continué son chemin au moment qu'on est confronté avec l'argent. Je ne vais pas parler de l'argent aujourd'hui, mais j'aimerais bien parler. Un jour, je vais parler. C'est important. C'est très important pour les chrétiens, l'argent. Mais il faut les donner seulement les valeurs nécessaires, pas plus. Parce que la parole dit que uniquement l'argent peut être la concurrence de Dieu. Même pas l'ennemi. Satan, il est déjà vaincu. Mais l'argent, il est là. Les choses matérielles, elles sont là, elles sont dans les mains. Alors, ton corps, à qui voudrais-tu servir? Et quel est l'état de ton corps par rapport à l'argent? Je vais finir bientôt. 4. Et avec ça, on va finir. La bonne terre. Hein? Moi, j'aimerais bien avoir et mon corps disposé pour être comme cette quatrième groupe. Qu'il y a la parole qui tombe et qui va produire des fruits. Verset 23, un autre enfant a reçu la semence sur la bonne terre, et c'est celui qui écoute la parole et la comprend. Alors il porte du fruit chez l'un en grand et en rapporte 100, chez un autre 60 et chez un autre 30. Ça veut dire qu'on va porter des fruits différents. Mais est-ce que ta vie, il porte des fruits maintenant? Et quand je parle des fruits, je ne parle pas de l'argent, je ne parle pas des choses matérielles, je parle d'un fruit spirituel. Je ne vais pas rentrer pour parler de le fruit du Saint-Esprit, mais c'est la joie, c'est l'amour. Bon, vous connaissez bien, qu'est-ce que c'est ça? Alors, qu'est-ce qu'il y a dans mon corps par rapport à les fruits? C'est quel les fruits que je porte à côté, chez moi, avec mes voisins, avec les amis, dans les lycées, dans les collèges? C'est quel le témoignage que j'ai pour remporter vers les autres? On va finir, et moi j'aimerais bien que les groupes de louanges, ils vont se mettre là, parce qu'on va finir pour une chanson. Il y a une promesse finale, et c'est un prophète, alors je vais aller chercher en français, parce que je ne sais pas comment il s'appelle, et en français, oui c'est pareil, Ézéchiel, non c'est ça? Ézéchiel 36, verset 26. Écoute ça. Je vous donnerai, c'est une promesse pour toi. Si toi réfléchis ce matin et tu penses, Seigneur, j'ai quelques morceaux de mon corps qui s'est endurci avec le temps. Moi, j'aimerais bien te partager cette promesse. Je voudrais que tu partes ce matin ici avec cette promesse. J'ai vous donnerai encore nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être, votre corps
des pierres et je vous donnerai encore des chairs. Amen. Amen. Je mettrai en vous mon propre esprit et je te ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour.
Ensemble, on va commencer. C'est bon. Je t'invite à réfléchir pendant qu'on va écouter cette chanson, qu'on va prier. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Je voudrais que tu commences à remercier à Dieu pour toutes les choses qu'il t'a données. Seigneur, merci parce que tu m'as donné, Seigneur, ton amour, ta paix. Tu nous as donné, Seigneur, comme cadeau, ton Saint-Esprit, Seigneur. Et tu m'as libéré, Seigneur. Et rappelle-toi quand tu as pris la décision de marcher avec Jésus. Peut-être que tu étais dans une situation de fragilité, tu étais en difficulté, tu étais malade. Je ne sais pas, c'est Dieu qui connaît ta vie. Je me dis bien que tu te rappelles comme c'était l'état de ton corps à cette époque. Et que tu te souviens aussi de tous les bienfaits qu'il t'a fait avec toi et toutes les choses qu'il t'a données. Mais que tu, comme je dis, comme le roi David, que tu le dis, Seigneur, je suis là devant toi, Seigneur. Et tu m'as demandé de garder mon corps parce qu'il est précieux. Mon corps, c'est la source de la vie, Seigneur. Et Seigneur, je voudrais, Seigneur, écouter cette promesse, Seigneur, qu'on a écoutée à la fin, Seigneur, que tu vas me donner, Seigneur, un corps de chair, Seigneur. Il n'est pas, Seigneur, resté avec un corps, Seigneur, comme une pierre, Seigneur. Seigneur, merci pour la famille, Seigneur, pour ma famille, Seigneur. Et tu donnes-lui. Remercie-les pour toutes les choses qu'il a fait. Seigneur, merci parce que, Seigneur, tu as été et toujours, Seigneur, pour nous aider, Seigneur. Et Seigneur, je voudrais, Seigneur, me libérer ce matin. Et je voudrais que tu me montres à travers de ton Saint-Esprit, Seigneur, s'il y a des mauvaises herbes dans ma vie, Seigneur. Peut-être il y a de la cizagne dans ton corps. Je ne sais pas, je ne te connais pas bien, mais le Saint-Esprit te connaît bien, mais il est là envers nous. Et que tu puisses aussi, si c'est le cas de quelqu'un, te pardonner aussi. Et dire, Seigneur, pardonnez-moi, parce que j'ai cru que j'avais, Seigneur, un bon corps, mais je reconnais, comme Jérémie l'a dit, que mon corps, il est mauvais, il est tortu, Seigneur. Et je reconnais, Seigneur, ce matin que j'ai besoin de toi, Seigneur. Je voudrais retrouver avec toi cette amitié, retrouver avec toi, Seigneur, cette intimité, Seigneur, qu'on a eue. Mais Seigneur, je reconnais aussi, Seigneur, que de plus en plus et de temps en temps, il y a des fardeaux, Seigneur, dans ma vie. Il y a des blessures dans mon corps, Seigneur. Il faut que je reconnaisse ce matin. Et je voudrais t'inviter ce matin. Et si jamais tu l'as fait et tu n'as jamais invité à Jésus à rentrer dans ta vie, et je pense que peut-être c'est le cas de Joël ou peut-être le cas de la jeune fille qui est derrière. Profitez cet homme-là pour inviter à Jésus, Alice. Profitez cet homme-là pour dire Jésus, je voudrais te connaître, je voudrais te suivre. Je reconnais que je suis sans pécheur, que j'ai fait des mauvais choix, que j'ai commis des erreurs, que j'ai péché. Mais devant toi, Jésus, je reconnais que je t'avais soin pour arriver à gagner la vie éternelle, pour être pardonné, pour être aimé. Et faites une prière. Le Saint-Esprit va te conduire pour lui dire, j'aimerais bien avoir un cœur de chair et un cœur sensible pour écouter ta parole et pour la mettre en pratique, pour voir les miracles et toutes les choses que tu as fait, mais pour reconnaître que tu es le Dieu des miracles.